Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre à ce culte important. Nous avons ce matin parler de quelque chose de très important sur vaincre par le surnaturel. Nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette prise de conscience de leur identité spirituelle, le fait qu'ils sont d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres charnels. Et donc, par cet enseignement, vous allez découvrir que l'important, c'est notre dimension spirituelle. Et donc, tout à l'heure, on se retrouve pour la fin. Que Dieu vous bénisse.
Vaincre par le surnaturel. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 6, verset 12. Vaincre par le surnaturel. Éphésiens 6, verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Amen. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Dis mon combat.
Mon combat
n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits invisibles. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Amen. Il dit donc notre combat n'est point contre la chair et le sang, mais contre des esprits invisibles, des êtres invisibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons Esther 3, verset 7 à 9. Esther 3, 7 à 9. Connaissez l'histoire d'Esther, mais on va voir un point, juste un point. Esther 3, verset 7 à 9. Est-ce qu'on peut lire?
Esther 3, verset 7 à 9.
Oui.
Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la douzième année du roi Nassuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au premier mois qui est le mois d'Adam. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces du royaume des peuples dispersés et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Je perdrai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi.
Amen. Ça va s'arrêter là. Donc, je dis ce matin, vaincre par le surnaturel. Est-ce qu'on peut répéter encore vaincre par le surnaturel? La Bible dit donc que pas de point contre la chair et le sang. Alléluia. C'est-à-dire le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat visible, mais un combat spirituel. Et frères et sœurs, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ou éventuellement une mauvaise nouvelle. Le chrétien qui n'est pas arrivé à la compréhension de cette vérité est un chrétien qui sera vaincu. Dis amen. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont vaincus. Tu n'es pas dans le miroir, tu es esprit. Et en tant qu'esprit, tu es un Alléluia. Dieu t'a soufflé dans cette enveloppe-là extérieure qui est le corps. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Donc tu es un être spirituel. Et en tant qu'être spirituel, la Bible dit ton combat n'est point contre la chair et le sang. C'est-à-dire ton combat n'est pas ce qui est physique, ce qui est naturel. Mais malheureusement, quand tu regardes nos églises, tu te rends compte d'une chose, c'est que les chrétiens sont charnels et tout ce qu'ils font, c'est charnel. Tout ce qui règle comme problème, c'est charnel. Voilà pourquoi l'église a ce visage. Et Dieu m'a amené à cette compréhension-là que, en tant qu'église, notre combat n'étant pas un combat charnel ou physique, il est important pour l'église de prendre conscience de son identité spirituelle et de faire ce qu'elle a fait. Alléluia. Dis Amen.
Amen.
Dis Amen.
Amen.
Dis Amen.
Amen.
Alléluia. Je vous donne un exemple simple, par exemple. Quand vous voulez, par exemple, détruire un arbre, qu'est-ce que vous faites? On coupe la racine. On ne coupe pas les feuilles, on ne coupe pas le tronc de l'arbre. Mais on détruit la racine. Et lorsque la racine est détruite, l'arbre s'écoule ou sèche. Alléluia. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens règlent les problèmes de façon superficielle. C'est pourquoi les mêmes problèmes sont cycliques. Et quand tu regardes la vie des gens, ils ont des malédictions cycliques, des maladies cycliques, des soucis cycliques, des envies cycliques, tout est cyclique.
Amen.
Pourquoi? Parce qu'ils ne règlent pas les problèmes à la racine, ils règlent les problèmes de façon superficielle. Je vais te faire une annonce. Tous les problèmes qu'un homme peut rencontrer dans ce monde, ces problèmes-là, c'est vrai, sont dans le monde naturel, mais on leur racine dans le monde spirituel.
Amen.
Et il n'y a pas de problème qui n'a pas sa racine dans le monde spirituel. Et le chrétien qui n'a pas compris qu'un problème dont, ou un problème qui vient vers lui, un problème qui s'attaque à sa vie, a ses racines dans le monde spirituel.
Amen.
Un chrétien qui va régler le problème, ça dit, en réglant les feuilles, ça dit, il va juste gérer les feuilles, couper là, c'est un peu comme, vous voyez, les bananiers là. Quand il coupe le bananier, il va repousser quelques jours. Et si tu veux véritablement que le bananier ne pousse plus, il faut aller à la racine et tu enlèves complètement la racine. Tu as tué le bananier. Dis
Amen.
Donc, le temps est venu pour l'Église de monter son niveau et de comprendre qu'en tant qu'être spirituel, lorsque nous sommes face à des difficultés, ce n'est pas traiter le problème à la surface, mais c'est traiter le problème à la racine. Et comment traiter le problème à la racine? Nous sommes des êtres spirituels. Donc, faire quoi? Monter dans le monde spirituel, régler le problème avant de descendre dans le monde physique.
Amen.
Et malheureusement, quand tu observes les chrétiens, tout est charnel. Tout est charnel. Même quand aujourd'hui tu vois les chrétiens donner des conseils à des gens, ça fait pitié. Non, je t'assure. Ils excluent maintenant, et vous savez, c'est le danger qui guette l'église. C'est-à-dire, exclus du christianisme, son volet surnaturel. Tu as tué le christianisme. Voilà pourquoi certaines églises sont mortes. Tu vois, certaines églises, ils ne volent plus, ils n'avancent plus. Pourquoi? Parce que les gens sont arrivés à un certain niveau où tout est devenu quoi? Tout est devenu des calculs. Tu es malade? Tu sais, il faut aller à l'hôpital, faire ça. Même les pasteurs maintenant donnent des conseils aux chrétiens pour aller voir, comment on appelle ça? Les psychologues, on ne sait jamais, tu sais, il faut aller parce que tout n'est pas esprit, tout. Et on est arrivé à ce point-là où on peut, si on ne fait pas attention, on peut exclure du christianisme son volet surnaturel.
Amen.
Et beaucoup excluent. Même pour la réussite. On dit souvent aux gens, écoute, tu sais, il faut travailler pour réussir, hein, il faut travailler pour réussir, il faut pas. C'est normal et c'est normal de travailler. C'est bien de travailler, c'est bien de se battre dans la vie. Mais combien de personnes qui se battent dans la vie qui ne s'en sortent pas?
Amen.
Il y a beaucoup de gens qui se battent, qui ne s'en sortent pas. Alléluia. Donc, avant de dire à quelqu'un, va te battre, va lutter, va courir, là, dis-lui au moins, prie, règle ton problème et puis va te battre.
Amen.
Mon ami, tu passes en vie, va te battre. Tu sais la vie qu'elle a là, il faut te lever, prendre tes CV, pour mettre dans le plateau, tu vas trouver le travail. Mon frère, combien de gens qui se promènent matin, midi, soir, qui ne trouvent pas le travail qu'ils cherchent? Le problème est spirituel. Et malheureusement, l'Église n'est pas arrivée à la compréhension qu'il n'y a aucun problème qui n'a pas ses racines dans le monde spirituel. Alléluia. Et ce matin, il faut avoir cette prise de conscience. Tu es un être spirituel. Dis avec moi, je suis un être spirituel. Tu n'es pas un être charnel,
foyers chrétiens, beaucoup de problèmes dans nos maisons chrétiennes. Quel véritable problème? Les gens s'attaquent à quoi? Madame fait parler avec son mari fait parler avec le mari fait parler avec la femme. Oui, tu es une sorcière, tu fais comme ça, tu te comportes mal. Et on cherche des solutions humaines. Alors que derrière le mauvais comportement du monsieur se cachent des esprits invisibles. Et une personne qui n'a pas compris qu'en réalité, derrière le mauvais agissement des hommes, il y a toujours une main invisible. Et derrière celle, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui se cache et qui fait le vrai travail. Alors, cette personne va combattre la chair et le sang. Mais malheureusement, ne pourra pas faire quoi? Obtenir les résultats escomptés. Et voilà pourquoi l'Église fait tout, mais l'Église n'a pas les résultats.
Amen.
Amen.
Parce que mon mari se comporte mal. Ok, je suis d'accord. La femme se comporte mal, elle ne te respecte pas, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas ça. Est-ce que c'est un babadin racontant ta vie qu'elle va changer? Non. Le vrai problème, tu dois arriver à une prise de conscience que derrière toute situation, il y a toujours une main invisible. Mais cette main-là est invisible. Son nom dit bien main invisible. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette main-là, c'est de ne pas se faire voir. Heureusement, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne voient pas cette main invisible. Ne voient pas cette main invisible. Ne voient pas la main invisible. Donc, on va de chaos en chaos, de chaos en chaos, on espère, on attend Dieu, et Dieu nous attend.
Amen.
Dis à ton frère, ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Non, c'est clair. Hein? Il dit ton combat, ce n'est pas contre la chair et le sang.
Amen.
Tu as tout fait, tu ne réussis pas là. Il y a un véritable problème quelque part que tu n'as pas encore réglé. Ça veut dire, mais c'est comme en médecine. Vous savez, quand on fait un mauvais diagnostic, on donne les mauvais médicaments. C'est la même chose. Tu sais, Satan veut que ton problème perdure. Et malheureusement, il y a des gens qui vont confesser jusqu'à ce que Jésus le guérisse. Et leur vie ne changera pas. Leur situation ne changera jamais. Je suis désolé de te dire, ce n'est pas tous les gens assis dans les églises qui vont s'en sortir.
Amen.
Si je ne te dis pas ça, je mens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont combattre le mauvais combat. Paul a dit à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, il dit combat le bon combat. Ça veut dire un homme peut être en train de combattre un mauvais combat, croyant que ou étant persuadé qu'il est en train de combattre le bon combat. Donc s'il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Quel mauvais combat? C'est que Satan amène les gens à poursuivre quelque chose qui n'est pas en réalité ce qu'il va poursuivre. Ou Satan amène les gens à traquer quelque chose en réalité qu'il ne faut pas traquer. Donc c'est comme si nous courions après de l'ombre. Mais plus du coup, plus tu as mal derrière. Et à un moment donné, quand tu n'arrives pas à trouver la solution véritable à ton problème, tu tombes dans la religion. Quelle est la religion? Les voies de Dieu sont insondables. Dieu sait ce qu'il fait. Un jour, s'il décide, il va me délivrer.
Amen.
C'est alléluia.
Amen.
Alléluia. Maintenant, on tombe dans cette facilité-là où on fait quoi? On cherche maintenant celui qui a la solution. Donc quand la personne entend, il paraît qu'il y a un prophète qui est arrivé là, il arrive de choses, de quoi un entour. Il est très puissant. Il dit, ah bon, c'est où? Bon, on va aller voir. Il va, mais s'attendant à ce qu'il trouve solution à son problème. Parce que depuis longtemps, le problème ne va pas. Il fait tout. Et d'après lui, il a tout fait. D'après lui, il a tenté toutes les pistes, il ne trouve pas la solution. Donc, maintenant, il cherche quelqu'un qui va lui apporter la solution. Donc, il cherche. Et il tombe dans la religion. C'est une véritable ruse de Satan.
Amen.
Dis avec moi, ruse de Satan.
Ruse de Satan.
Mais regardez ici. La Bible dit donc, non, comment les potes ont lâché le sang. Maintenant, lorsqu'on revient à Esther 3, verset 7, qu'est-ce qu'elle dit? Soyez, il y a une révélation importante à Esther. On peut prendre Esther, on va le lire. Vas-y, à partir du verset 7. Écoutez bien la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui.
Au premier mois, qui est le mois des Nissan,
oui,
la 12e année,
oui,
du roi Assyrus, on jeta le pur.
On jeta le pur, c'est-à-dire le sort, oui,
devant Aman, pour chaque jour, et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adam,
oui.
Alors Aman dit au roi Assyrus,
oui,
il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé
et à part
parmi les peuples,
oui,
ayant des lois
différentes.
Ayant des lois différentes.
De celles de tous les peuples.
De celles de tous les peuples, oui.
Et n'observant point les lois du roi.
Mm-hmm.
Il n'est pas dans l'intérêt du roi,
oui,
de le laisser en repos.
Mm-hmm.
Si le roi le trouve bon,
oui,
qu'on écrive l'ordre,
mm-hmm,
de les faire périr.
De les faire périr.
Et je paierai 10 000 talents d'argent.
Je paierai 10 000 talents d'argent. Maintenant, dans les commentateurs de Bible disent, ces 10 000 talents d'argent-là correspondent à peu près à près de 200 000 dollars. Oui, vas-y. Continue.
Entre les mains des fonctionnaires,
mm-hmm,
pour qu'on les porte dans le trésor du roi.
Amen. Regardez ici. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et dans cette histoire, il y a pratiquement, on peut dire, il y a Esther elle-même, il y a Mardoché, son nom, il y a Amman, le premier ministre, et puis il y a le roi. Alléluia. Mais regardez bien, vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est cette partie-là qui m'intéresse. La Bible dit à un moment donné, donc, Amman, en tant que premier ministre, va faire une chose. Mais une chose qui m'étonne dans la réflexion, c'est que la Bible dit, il va aller chaque jour consulter les dieux, il va aller jeter des sorts chaque jour. Pendant un an, 12 mois, chaque jour et chaque mois, il va aller jeter des sorts. Et après avoir fini de jeter des sorts, il va venir voir le roi maintenant pour donner sa requête. Quelle est sa requête? Roi, j'ai un plan contre ce peuple de Dieu. Contre ces juifs-là, ils ont des lois différentes de nos lois. Ils ont des comportements bizarres. Il faut qu'on les arrête. Alléluia. Et la Bible dit que le roi va accepter sa requête. Mais ce qui m'étonne, regardez, il est premier ministre, n'est-ce pas? Il est en position d'autorité, c'est un homme puissant, parce que l'argent qu'il propose aux fonctionnaires pour aller exterminer les juifs, c'est beaucoup d'argent. Parce que si chaque fonctionnaire doit avoir 200 000 dollars pour combien de juifs hein, qui s'étendent sur un territoire aussi vaste, depuis la Turquie jusqu'à l'Inde, en son temps, bien sûr, de ce royaume, ce n'est pas une petite affaire. Donc, c'est un homme qui est puissant financièrement. Maintenant, face à cette puissance financière, cet homme a fait un choix que je trouve bizarre. C'est-à-dire, il veut détruire le peuple de Dieu, il veut s'attaquer au peuple de Dieu, mais au lieu de s'attaquer au peuple de Dieu normalement, il ne s'attaque pas au peuple de Dieu normalement. La Bible dit il va consulter, il va implorer les esprits invisibles en sa faveur. Alléluia! Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que ces hommes-là ont compris un principe que seuls les chrétiens n'ont pas encore compris. Qu'il n'y a pas de succès dans le monde physique sans succès dans le monde spirituel. Tout être humain qui a un succès visible a d'abord eu un succès invisible. Et ça, c'est une vérité spirituelle que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Donc, Amman, qui est premier ministre, qui est dans une position d'autorité, a compris le principe. Il n'a pas pu attaquer les juifs directement parce qu'il est dans une position d'autorité. Mais il s'est dit, il n'y a rien qu'il faut négliger sur la terre des vivants. Même si la chose est facile à faire, il faut toujours s'assurer que le Dieu te soutient.
Amen.
Donc, dans sa position d'autorité, il est allé consulter. Et la Bible dit, chaque jour, il est allé consulter. Mais pourquoi ça a duré un an? Parce que seulement, le premier jour, il est venu, on lui a dit, non, c'est un peu compliqué. Deuxième jour, il est venu, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve gain de cause. C'est-à-dire qu'il était tellement acharné à la tâche de détruire les enfants de Dieu que les jours où les temps qui passaient n'ont pas été assez suffisants pour le décourager. Un an de consultation pour avoir la faveur de Dieu pour détruire le peuple de Dieu. Avoir la faveur de l'esprit pour détruire le peuple de Dieu. Amman était en train de faire comprendre aux gens que toute victoire dans le naturel s'obtient d'abord dans le spirituel. Amman s'est dit, si j'attaque ce peuple, si je vais combattre de façon naturelle, je ne les connais pas. Ils ont des lois différentes de nos lois. Ils ont des comportements différents de notre comportement. Ils adorent sûrement un Dieu qui est différent du Dieu que nous adorons. Donc si nous devons les vaincre, alors il faut régler le problème sur le plan spirituel d'abord. Et lorsqu'on va attaquer, ça va être bien. Donc lorsqu'il a eu la faveur de Dieu, il est venu voir le roi. Et quand il arrive devant le roi, il dit, roi, je suis venu pour te faire une proposition. Le roi dit quelle proposition? Il dit, bon, ce peuple-là, voilà, ils ne respectent pas nos lois, ils sont comme ça, ils sont bizarres, ils sont différents. Ordonne qu'on puisse les exterminer. Le roi, bien sûr, étant donné que le travail a été fait dans le monde spirituel, n'a pas pu résister. Frère, vous devez prier pour les personnes qui ont accès à votre vie directement comme indirectement. Sinon, c'est eux que Satan va utiliser comme vous.
Amen.
Cet homme était élevé en position d'autorité. C'est lui qui avait la signature. C'est lui qui pouvait dire ok ou non. Donc Aman a compris que lorsqu'un homme est dans une position d'autorité, ou un homme a une capacité d'influence, alors il faut travailler le spirituel afin que cette personne-là soit acquise à ta cause. Donc il a fait le travail dans le monde spirituel. Quand il est arrivé devant le roi, c'était une affaire déjà réglée. Le roi n'a plus que dire oui. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez pour les autorités qui sont dans la nation. Pourquoi? Parce que si Satan veut attaquer l'église, il peut passer par l'autorité. En faisant quoi? En faisant que l'autorité ou le gouvernement puisse voter des lois qui soient des lois contraires à l'avancement de l'œuvre. Mais si l'église prie pour l'autorité, lorsqu'ils vont faire leur travail pour que le gouvernement soit complètement endoctriné ou complètement envoûté, ce travail a marché en marche. Est-ce que vous comprenez?
Amen.
Donc, Aman a fait quoi? Il allait consulter les dieux. Il est venu voir le roi. Pourquoi? Pour envoûter le peuple. Donc, il a compris que le vrai combat, c'est spirituel d'abord et le physique ensuite. Tout le monde dit le spirituel d'abord.
Le spirituel d'abord.
Et le physique ensuite.
Le physique ensuite.
Est-ce qu'on peut dire plus fort que ça? Le spirituel d'abord.
Le spirituel d'abord.
Et le physique ensuite. Mais l'Église n'a pas encore compris cette réalité. C'est l'Église seule qui n'a pas encore compris cette réalité. Quand tu regardes la vie des chrétiens, les chrétiens sont tellement charnels. C'est-à-dire les chrétiens jouent tellement avec leur identité spirituelle. Mes frères, les païens que vous voyez là, ne croyez pas qu'ils ne vous connaissent pas. Parce que regardez ici, Aman était très puissant dans le royaume, le premier ministre. Et vous savez qu'Aman avait un problème avec Mardoché. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il passe et qu'il entre voir le roi, tous les fonctionnaires du palais se prosternent, sauf Mardoché. Et Aman lui a dit, mais écoute, toi t'es qui pour ne pas me prosterner devant moi? Parce que la prosternation était une sorte de compromission. Maintenant, Mardoché était quoi? Était adorateur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans la loi juive, on ne peut que se prosterner devant Jéhovah. C'est Jéhovah seul qui mérite que quel homme se prosterne devant lui. Donc lui, face à sa croyance, ou à, vis-à-vis de sa croyance, il était interdit à Mardoché de se prosterner devant un homme. Fut-il premier ministre. Donc, à un moment donné, Aman a observé Mardoché et s'est rendu compte que l'acte de Mardoché, le fait de refuser de se prosterner, n'était pas un acte délibéré de désobéissance. Et qu'au-delà d'une simple désobéissance, l'acte était plus profond.
Amen.
Il s'est dit ce type-là, il est bizarre. Attends, il refuse de se prosterner. Pas parce que se prosterner fait quelque chose, non. Mais en fait, au-delà de se prosterner, il a vu l'esprit qui était derrière Mardoché. Il a vu que Mardoché était un être spirituel, était un homme spirituel, était quelqu'un qui privilégiait les relations spirituelles par rapport aux relations physiques. Mardoché était quelqu'un qui était lié à un Dieu qui avait des exigences. Et comme, quelle que soit la puissance ou le pouvoir qu'il avait, il n'a pas pu soumettre Mardoché. Il s'est dit, cet homme est un homme spirituel. Mais... frère, je vais te faire une annonce. Ne crois pas que les inconvertis là ne te connaissent pas, ils te connaissent. C'est toi seul qui ne sais pas qui tu es.
Amen.
Ça dit, il a identifié Mardoché. Mais je ne sais même pas si Mardoché a su qui il était. Alléluia. Au-delà des actes qu'un homme pose, il y a ce qui est derrière l'acte. Et c'est ce qu'il a vu. Il a vu en Mardoché quelqu'un de hautement spirituel. Et que si un tel homme et son peuple ne sont pas exterminés, ça ne peut pas aller vers l'homme. Mais on ne peut pas exterminer un tel homme en l'affrontant face à face ou dans le monde physique. Il faut élever le débat dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel contrôle le naturel. Et il a compris cela. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le spirituel contrôle le naturel. Frère et soeur, dis à ton frère à côté, le spirituel contrôle le naturel. Ça ne doit pas être un slogan. Parce que les gens sont fatigués. On veut les gens qui soient arrivés à une compréhension, à une conviction réelle que le spirituel contrôle le matériel. Et donc, lorsque quelqu'un est arrivé à la compréhension de ces vérités-là, je ne comprends pas l'église, quand tu regardes le comportement des gens, quand tu regardes la défaite dans leur vie, ils planifient des affaires, ça ne marche jamais. Ils disent dans leur bouche, ils ne voient jamais. Ils sont médiocres, ils sont ballottés par le péché. Le péché, les gens comme ça, comme tu vas voir, dans un moment, ils vont jouer le ballon. Ils sont malmenés par la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le spirituel d'abord et le physique ensuite. Donc, en tant qu'être spirituel, ils gèrent le monde, ils gèrent leurs difficultés comme s'ils étaient des pécheurs. Même les pécheurs ont compris qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'avancée sans faire appel au surnaturel. Il va être fort. Alléluia. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire, si tu veux avoir la victoire, tu dois comprendre qu'il n'y a rien qu'il faut négliger dans la vie.
C'est bon.
Les vainqueurs, c'est ceux qui auront remporté une victoire. Il n'y a pas de victoire sans adversité. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le temps est venu de comprendre que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Même le monde que vous voyez, la Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que le monde a été fait par la parole de Dieu. Tout ce qui est visible est sorti de l'invisible. Donc pour influencer le visible, il faut faire appel à l'invisible. Et donc tu n'as pas compris qu'il faut toucher l'invisible. Pour influencer le visible, ne peut pas s'en sortir dans ce monde physique.
Amen.
Tu vas quelque part, tu as un bureau. Le monsieur te dit, ah bon, excuse-moi, amen. J'ai voulu te donner le contrat, mais en fait, je ne pouvais plus parce que tu dis, excuse-moi, deux minutes, il n'y a pas mon fils, laisse-moi aller au PC, je vais faire, je vais aller là. Mais en fait, c'est pas les attachés. Tu vas vite. Tu l'attaches, tu le détaches et tu le réattaches. Quand tu sors, il y a. C'est vrai, je t'avais dit ça, bon, on va te. Je t'avais dit, mais en fait, j'ai changé d'avis parce que tout de suite, quand tu es entré dans la téléphone à sonner, on m'a dit, bon, on peut laisser personne entrer. Donc, je t'ai pris encore. Merci. Mais c'est pas ce que tu as fait. Parce que tout n'est pas bavardage. Les gens parlent, les chrétiens, c'est des babailles. Tout ce qu'ils font, ils babalent. Oh, on va faire. C'est quoi? Oh, Seigneur, mon vrai Dieu a dit, on va faire. Frère, ça ne suffit pas. La fête est une affaire de pouvoir et de puissance. Parce que je te dis, la confession est une bonne chose. Amen. Dis amen.
Amen.
Quand tu as confessé, ce n'est pas tout ouvert. Alléluia. Il faut libérer la puissance de Dieu. Dis puissance de Dieu.
Puissance de Dieu.
C'est la prière que la capacité de Dieu est libérée. Il faut monter dans le monde spirituel. Attacher les choses. Fermer la bouche des gens. Casser les choses. Déblayer le chemin. Et quand tu descends sur terre, quand tu arrives, les choses s'alignent.
Amen.
Amen. On avait pensé c'était bien, et puis après il y a un monsieur qui est apparu là, tu as réglé son problème. Tu sais tout ce que tu ne prouves pas par la prière, Satan l'utilise contre toi.
Je dis
tout ce que tu ne prouves pas par la prière, Satan va utiliser la chose contre toi. Ça peut être ton enfant, ton mari. Tu ne pries pas pour ton mari, tu vas voir comment il va te fatiguer. Il va donner le diable à côté de la tête. Pourquoi prier? Ce n'est pas une affaire de dire oui, il m'énerve. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Satan a fait que j'en t'énerve. Mais maintenant, si j'ai compris une chose, c'est-à-dire que quand vous, mais souvent, mon intelligence sur cette chose, ça me fait. Il dit, j'ai dit, un homme ou une femme, c'est quand un homme fait des bêtises, et puis toi tu dis oui parce qu'il a fait savoir quoi? Tu fais quoi? Tu désobéis pas à l'homme, mais à Dieu. La Bible dit, femme, soyez soumise à mon mari, comme au Seigneur. Donc en réalité, quand une femme s'oppose à son mari, en réaction de son comportement, elle s'oppose à Dieu. Donc ça fait que Dieu ne peut pas régler son problème. Elle paie sa justice. Mais une femme qui a son mari qui se comporte mal, mais qui dit, c'est vrai, il fait mal, mais moi je vais continuer à rester droit vis-à-vis de Dieu. Dieu règle le problème de la femme. Et Dieu lui donne la vie droite. Je donne un exemple. Ton mari, c'est mal comporté. Et toi, le soir, il vient, tu vois Jim, tu sais, ta porte d'attache, c'est lui, je ne veux pas en voir. Je vais me coucher, on va voir. Mais lui, c'est son droit parce que la Bible dit. Tu sais, donc lui, quand il vient vers toi, toi, tu as obligation de respecter la parole de Dieu. Maintenant, quand tu lui dis, tu ne peux pas en mettre aujourd'hui là. Tu entres sous une désobéissance aussi. Donc vous devenez deux désobéissants à la maison. Dieu a un problème d'équipe. Non, c'est la sagesse. Mais combien de gens qui ne se comportent, tout le monde se comporte comme ça, on réagit par rapport à. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un t'a fait du mal, fais-lui du bien. C'est-à-dire, toi, reste connecté à la volonté parfaite de Dieu. C'est son nom maman avant que Dieu justifie
beaucoup.
Les jeunes ont de me dire, elle va pas, tu vas même vu sa passe. Pourquoi? c'est pas contre lui, c'est contre Dieu. Lui, il t'a fait mal, il s'est mal comporté, il est sorti, il n'a pas bon comportement. Toi, tu te comportes mal dans le sens où tu bafoues son autorité, tu fais n'importe quoi, tu penses pour qui? Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu vas espérer la délivrance jusqu'à l'arrivée. Frère, ne joue pas. Esther a compris que l'affaire là n'était pas une affaire simple. Donc lorsque son nom a commencé à faire la pression, elle a dit non, 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 calme-toi. L'affaire là, ce n'est pas une affaire simple. Laisse-moi prendre du réveil. Laisse-moi revenir en arrière, remonter dans le monde spirituel, régler le problème. Tu vois, parler, lier son esprit, disposer son cœur et puis je descends voir. Donc je trouve que tu en néglige tout. Fais, le païen ne néglige rien. Le païen ne néglige rien. Regardez, quand vous prenez 1 Samuel, 1 Samuel combien? 17, 43. Qu'est-ce qui s'est passé entre David et Goliath? Vous savez que Goliath est venu sur le champ de bataille. Il a vu David, il dit, mais c'est un chien pour que tu viennes avec moi, avec des pierres, ainsi de suite. David dit quoi? Le Philistin maudit David par ses dieux. C'est intriguant. Alléluia. Lis-moi ça pour que les gens entendent. Calme-toi.
Verset 43.
Oui.
David dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées.
Amen. Regardez la logique du Philistin. La Bible dit le Philistin maudit David par ses dieux et il ajouta. Donc avant de faire sa déclaration, il s'est assuré que les esprits sont derrière lui. Donc la première chose qu'il a dit David, mais frère, ça vous ça, ça ne fait pas bizarre. Un monsieur qui est géant, 2 mètres, un petit enfant qui n'a même pas fini de boire son biberon, qui est devant lui. Il n'a rien à des pierres. Toi, tu es verrouillé de fer partout avec lance, javelot et tout. Tu es guerrier depuis ton enfance. C'est-à-dire un homme d'expérience, un homme gigantesque. Mais il aurait pu écraser David rapidement, on en finit. Le petit moustique là. Mais frère, il n'a pas pris l'affaire au sérieux. C'est un petit, mais ces gens-là, ils savent qu'une victoire dans le naturel doit être une victoire d'abord dans le spirituel. Quel que soit son niveau. C'est Dieu. Maintenant, après, il déclare que je vais te donner ta chair. C'est-à-dire, sa déclaration est venue après qu'il a fait affaire aux esprits. Il dit, les esprits sont derrière moi, maintenant je peux parler. Il n'a pas, il n'est même pas sûr que le Saint-Esprit est derrière lui. Il n'est même pas sûr. Frère, on dit que le Saint-Esprit est pour tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des gens qui, il n'est pas tous les jours. Il est de façon intermittent. Il est là, 2 secondes, il disparaît, il apparaît.
Il va se lever, tu vas aller, il va même pas prier. Oh, je pense que Dieu est avec moi. Tu penses? Pourquoi tu veux penser? Pourquoi prendre le temps de prier sérieusement? Oui, Seigneur, je m'en vais ici. Je te demande de me dénoncer, de régler les problèmes, de balayer la route. Tu vas voir, il arrive hein, au milieu, quelqu'un va t'arrêter. T'es d'accord? Dans la synagogue. Jésus! On ne va pas régler le problème. Si tu avais prié avant, tu ne devais pas dire Jésus! Hé, la voiture! Jésus, sauve-moi! On s'est quand même brûlé! Pour temps passé. Les gens veulent régler le problème dans l'action. C'est-à-dire que ça choque, ils crient Jésus, sauve-moi là! Ça... Non, frère, régler le problème. C'est pourquoi on avait l'écriture de la vie par une connaissance d'avance. Vive par une connaissance d'avance. Vive par une révélation avancée. C'est-à-dire, avant même d'entrer dans le champ, tu as béni l'atmosphère.
Amen.
C'est ce qu'ils font. Goliath a maudit David. C'est le mot maudit, c'est quoi? Quand on maudit un homme, en réalité, c'est quoi? Un homme qui est maudit, c'est un homme qui est accompagné de force ou d'esprit. Mais la caractéristique de cette force-là, c'est qu'il travaille pour l'échec. Un homme qui est béni est accompagné de force. La caractéristique des forces travaille pour le succès. Donc en fait, c'est que David a, ce que Goliath a fait, c'est quoi? La Bible dit Goliath a maudit David. Donc ça veut dire qu'il a affecté des esprits à David. Mais quels sont ces esprits-là? C'est des esprits d'échec. Donc avant même que David ne commence le combat, il a déjà échoué. Voilà ce que Goliath a fait. Il a lancé des sorts à David. Pour que quand ils seront dans l'arène, en train de commencer le combat, quand David va venir envoyer son poing comme ça, que le poing aille comme ça. Donc tu fais comme ça. Tu viens toi dans ton œil. Tu dis, mais je ne peux pas, tu veux taper, mais. En fait, le vrai problème, c'est quoi? Écoutez-moi bien ce matin. Satan t'affecte des esprits qui vont travailler pour que tu échoues. Mais pour que tu échoues objectivement devant les gens. C'est-à-dire, vous serez sur le podium. Le gars va te vaincre. Et tout le monde va voir qu'il t'a battu. Mais toi seul, quand on va t'interroger, ah, on parle de tes battus. Quand je lance mon poing, ça va ici. J'ai remarqué que, comme s'il y avait une mule devant moi. Mais ça, ce mule, c'est toi seul qui sens. Les autres qui s'en foutent. Eux, ils ont fait un constat, c'est que tu as perdu. Et donc, quand vous entrez dans les concurrences, les libanais, tout dans le bois, je fais affaire. Eux, ils vont voir. Quand ils te voient venir, ils montent. Ils règlent le problème spirituel, ils t'affectent des esprits. Les esprits-là sont destinés, quand vous serez face à face, à te faire commettre des erreurs. Vous allez aller en entretien maintenant. Maintenant, les esprits qui t'affectent en te lançant des sorts, vont te faire des choses qui vont te disqualifier. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Les esprits d'échec. Tout ce que tu fais, tu vas faire ça maladroitement et tu vas échouer. Et c'est quand tu vas sortir, mais je ne comprends pas pourquoi je connaissais le truc. Maintenant, je ne sais même pas. Quand je me dis ça, autre chose sort de ma bouche, on t'a avancé. Je te dis, on t'a passé, frère. Dimanche matin, le lundi matin, c'est là qu'il fait une prière et dit, au nom de Jésus, je suis bâti. Mon frère, donc le gars a verrouillé l'atmosphère. Tout dépend de celui qui monte le premier. Et c'est que ton bâti ne joue pas. Goliath n'a pas joué, ça m'a surpris. Il n'a pas joué. Il a lancé, il a volé David. Mais regardez, David a compris que l'affaire là, s'il reste comme ça, c'est fini. David a saisi la balle au mort. Il dit non, tu viens contre moi avec tes dieux. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc, David aussi est venu avec lui, avec le Dieu d'Israël. Est venu avec le Dieu d'Israël compris. Voilà pourquoi David a eu la victoire. Sinon, David aurait joué dans le combat. Mais il a gagné le combat parce qu'il avait intervenu Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, c'est devenu une bataille entre le Dieu des Philistins contre le Dieu d'Israël. Pas personne d'interposer. Que le Dieu règle le problème. C'est un Dieu et Dieu. Frère, tu sais, c'est là où Satan souvent gagne les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas conscience de la fétiche. Tu sais pas qu'est-ce que c'est une fétiche.
Le café, quand on lit, on lit son père, on parle de lui, Daniel, avec l'histoire des enfants, Daniel 3 avec ses 8. Vous connaissez l'histoire des trois enfants hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé?
La Bible dit, le roi fait décret, frère le roi, il a fait une statue. Il dit, voilà, la statue que j'ai, tout le monde va se prosterner quand je donne l'ordre. Mais qu'est-ce que le roi disait?
Derrière le roi, il y avait une main
qui visait quoi? Qui visait à couper le fil entre les trois enfants hébreux et leur Dieu. Parce que le roi savait où Satan sait quelle est la source de pouvoir. Et toi, ce qui ne sait pas. Satan sait quelle est la source de ton pouvoir. Et donc, tout ce dont il faut qu'il fasse, tout ce qu'il a à faire pour te déconnecter de ta source, il le fera aujourd'hui, il le fera. Il le fera. Tu peux compter avec lui. Satan te connaît, il sait ta force. Il sait qu'il ne peut pas. Il sait d'où vient ton pouvoir. D'où vient ta force. Satan le sait. Il savait donc le décret bizarre fait quoi? Empêcher les trois là de connecter Dieu. Dans ta connexion. On dit bon, on ne prie plus et tout le monde se présente devant la statue. Ah? Les enfants ils me disent non. On connaît notre force. Je dis on connaît notre force. Et la force qu'on a, on ne laissera personne vous détourner de ça. La Bible dit, malgré l'interdiction, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé. Ils ont continué à prier Dieu. Il dit quoi? On ne se prosternera pas devant ta statue, vie éternellement. Il dit, oh, tu peux dormir tranquille. Ils ont confessé leur foi. Le Dieu que nous servons, il nous délivre. Et puis après, ils vont enlever de l'autorité. Même au roi, s'il refuse de nous délivrer. Ça, c'était eux-mêmes qui parlaient. C'est-à-dire, c'est leur peuple qui parlait. Même s'il refuse, sache une chose au roi. C'est que ce que nous on a dit là, on est dedans. Tu sais, après, le vrai problème des chrétiens, ce n'est pas la confession. C'est comment tenir sur leur confession.
Amen.
Amen.
Donc, les gens confessent. Quand ils confessent, ça t'a réécrit. Je suis la tête et je suis la queue. Je ne voulais plus. J'arrivais à mon corps. Oh, je suis un enfant de Dieu. Je suis le Saint d'Israël. Allez, avant, continue de confesser. Maintenant, avec le bénéfice de la situation pour voir si tu crois ce que tu dis. Seigneur, tu sais, pour comprendre. Le roi chauffé encore la foulesse pour que les enfants hébreux changent de confession. Ils disent oui, dans tous les cas, pour Dieu, on ne sait pas. Parce qu'il est souverain, il peut décider de ne pas nous sauver. Ça, il est souverain. Mais nous, on a décidé une chose. C'est quoi qu'on a dit? On ne fera pas aujourd'hui, on ne fera pas demain. Frère, si tu n'es pas prêt à mourir pour tes convictions, tu n'es pas encore prêt.
Amen. Amen.
Regarde les chrétiens dit. Quand il dit, ça prend la fuite. En fait, tu es sûr que Jésus l'a fait avec lui? Non, dis-moi, tu es sûr que Jésus l'a fait avec lui? Est-ce que tu es sûr? Dis amen ou non. Dis, est-ce que tu es sûr? Je dis, si tu n'es pas prêt à mourir tes convictions, c'est que tu n'es pas encore prêt. Comment? Frère, il dit, non. Nous là, le Dieu là, c'est pas grave. Mais même si on doit mourir, on va mourir. Je dis, on va. Il dit, on va mourir. Il dit, non, on ne va pas adorer ton Dieu. Il dit, non, on sait que Dieu, il est souverain. Il peut le faire. On sait qu'il va faire. Mais comme il peut changer la vie, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, Dieu sait que il change ou il ne change pas, non, on est là.
Amen.
Ça, c'est les hommes qui ont suivi leur Dieu. Et qui savent pourquoi ils suivent. Pas les gens qui suivent Dieu parce qu'ils attendent bonbons, glacés, des histoires. Non, 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 non. C'est les gens qui suivent Dieu. Que le bonbon soit là. Elle a l'impression, tout le monde veut sortir avec un donné Mercedes, voiture et tout. Et puis elle a dit non. J'ai pas besoin de la voiture. C'est comme une soeur m'a demandé de voyage ici. Elle a dit ici. Je ne dirai pas qui parce que c'est trop dangereux. Je ne dirai pas. Mais on lui a présenté une enveloppe. Courait de pied. Je suis avant. Prends l'enveloppe. Elle dit. C'est pas comme si il faut faire ça maintenant. Prendre une enveloppe et puis on se voit après.
Elle arrive à votre église. Je ne prends pas l'enseignement.
Hey, j'ai dit, bon, j'ai crié. Tu n'as pas pensé à mon temps? Non, 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 elle a bien fait. Elle dit non. Mais imagine-toi, elle a la personne qui dit non, je ne veux pas. Mais quelqu'un ne veut pas là, c'est une décision douloureuse. Mais pour la décision, elle dit non. Même si Dieu m'a dit, s'il n'en voit pas, je suis prêt à entrer au ciel comme je veux. Hé, hey, ça c'est une foi. Ça peut toucher. Il dit ça, là, ça peut toucher. Ça peut toucher Dieu jusqu'à il va se lever. Frères et sœurs, on voulait empêcher les enfants hébreux d'avoir contact avec leur source de pouvoir. Satan connaît la source de ton pouvoir. Satan, c'est toi seul qui ne connais pas ton fétiche à rien ici. Frère, moi je connais mon fétiche. C'est pourquoi j'ai envie de méditer ce matin. Ne jouez pas avec les affaires du Seigneur. Ne jouez pas avec votre affaire d'église, votre affaire de prière, les activités spirituelles. Satan sait. Je suis occupé. Il y a ça même, je suis occupé. Frère, ce n'est pas l'occupation qui donne une position.
Amen.
Je dis, c'est Dieu. La Bible dit la faveur ou dit l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. C'est l'éternel Dieu qui donne l'élévation à un homme. Si tu as besoin d'être élevé, frère, ce n'est pas la multitude de tes occupations qui va faire ton élévation. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, mais pour la mauvaise raison.
Amen. Amen.
C'est quoi, j'ai dit, on peut avoir du succès dans la vie sans réussite. Il y a des gens qui ont eu du succès qui n'ont pas réussi leur vie.
Amen.
Quelle affaire de succès? Dieu a donné le succès et a donné la réussite.
Amen.
Donc, frère, il faut trouver le temps pour Dieu. C'est ça ton fétiche. Beaucoup de gens ne savent pas. On dit, mais là, l'église, ils font le mal. Frère, je te dis une chose. Satan sait où tu dis ta force. La Bible dit, l'église est la porte du ciel. L'église, c'est la porte du ciel. C'est là où on tire le pouvoir. C'est là où on se branche au ciel. C'est pas la maison. Tu n'as jamais vu dans la Bible, la maison est la porte du ciel. L'église est la porte du ciel. Et Satan, par tous les moyens, va faire que tu sois loin de tout ce qui est spirituel, loin de tout ce qui est œuvre de Dieu. Mais en fait, tu crois que c'est une façon d'être civilisé, d'avoir le temps pour travailler, pour chercher l'argent. Frère, c'est une bonne chose. Mais, je te dis, identifie ta force. Et protège cette force-là.
Amen.
Donc, nous, on ne peut pas. Notre appel de Dieu, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Satan sait. Satan sait. Satan sait. Frère, tu as une force quelque part. Et tu es un être spirituel. Avant d'attaquer les problèmes dans le monde physique, règle les problèmes dans le monde spirituel. Élève ton niveau. Alléluia. Dis amen.
Amen.
Quel que soit le problème. Regardez l'histoire de Aman. C'est pas une petite histoire. Maintenant, je vous ai dit une seule chose. Aman a fait quoi? Aman a consulté les esprits pour vaincre le feu de Dieu. Et n'a pas seulement consulté les esprits. Il a dit au roi, je vais donner de l'argent aux fonctionnaires pour exécuter la tâche. Ça veut dire quoi? Ces deux éléments-là sont fondamentaux dans le combat que nous menons aujourd'hui. Un homme qui n'a pas compris que le spirituel d'abord, le physique ensuite. Et que les ressources, je vous l'ai déjà dit, que Dieu a mis dans nos mains là, sont également pour le combat. Aman a dit, j'ai réglé le problème spirituellement, mais ce n'est pas suffisant. Je suis prêt au roi à ajouter des ressources, à payer les gens pour que le travail, l'objectif que je vais atteindre, soit atteint. Ça veut dire quoi? Il y a le spirituel. Et puis il y a des ressources. Ça veut dire que quand Dieu nous donne des ressources, c'est pour le jour du malheur. C'est pour obtenir les résultats que tu attends. Aman a payé. Pourquoi? Pour atteindre son but. Détruire le peuple de Dieu. Vous savez combien de gens qui payent pour vous détruire? Quand ils vont voir les marabouts, ils font les sorts. Ils disent cette femme, elle ne peut pas réussir. Dans le commerce qu'on va faire, qu'elle soit dernière dans la liste, je ne veux pas qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Ils ne vont pas seulement consulter, mais ils sont prêts à payer le plus fort. Parce que chaque être humain a un prix en fonction de sa destinée que tu veux détruire, il y a un prix. Si il a une petite destinée, le gars te demande un bouton ou bien corps blanc. Mais si c'est un gars qui va loin, qui a une étoile, qui doit percer les nations, frère, quand le monsieur la voit, ça dit, hey, c'est pourquoi Amman a mis un nom, parce que les juifs, ce n'est pas des petits gars. Donc un jour, le gars dit non. Ton sacrifice est trop petit. Deux jours. Trois jours, chaque mois, il revient. Il fait en disant, pour qu'on puisse, dès que ces gens-là, un mois. Au dernier jour du mois, il a obtenu la force. Parce qu'il a payé le prix. Maintenant, il allait voir le roi. Quand il a parlé au roi, le roi a dit, non, je te livre ce peuple. Pour lisez la déclaration du roi, c'est quelqu'un qui a envoûté. Je dis, ce monde, c'est un monde où on se base. De quoi on se base? Non, écoute, arrêtez de rire. Satan a tout fiché dans l'église. Et c'est seulement les chrétiens qui refusent d'avoir l'intelligence pour comprendre que tu dois aller parler à un patron. Tu entres dans ton bureau, tu dis patron, je t'appelle patron, je te commande au nom de Jésus, le Dieu qui t'a créé. Je ferme ta bouche, je déclare que tu acceptes ce que je vais dire. Quand je te salue là, que l'onction sorte de ma vie, rentre dans ta vie, et que tu ne puisses pas. Et puis tu prends l'huile, l'onction, tu peux. Mon frère, tu sais, c'est toi qui sais pas. Jésus, mais tu dis même la vie de Jésus, pas la même chose que Jésus a fait. Il y a même qui trouve ça bizarre. Non, c'est pas bizarre. Jésus savait ce qu'il allait faire. Mon frère, tu es un être spirituel. La puissance de Dieu est passée. Dit, je reçois la force dans mon esprit, dans ma main. Quand je le salue, tu vois, la force entre tes mains, tu prends la parole. Tu salues le gars, transfert d'énergie. Regarde. Ça va? Mais les marabouts, les gens, ils ont mis ça où? Satan n'a rien créé, il a tout triché. Et les chrétiens sont là, ils subissent la vie. Les gens, maintenant, ils sortent. On les envoûte. Et ils sont là, ils n'arrivent pas à faire. Ils disent, je suis chrétien. C'est vrai que tu es chrétien, mais il y a un prix à payer. Et quoi? Et ça, je vais terminer avec ce point-là. La Bible dit quoi? La Bible dit, à celui qui peut faire. Et venez toi avec ses mains. Par la puissance qui agit en qui? Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, où à lui la gloire au siècle des siècles. À celui qui peut faire, c'est Dieu qui peut faire. Par quoi? La puissance qui agit, non pas en lui, mais en toi. Infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ça veut dire quoi? C'est une affaire de puissance. C'est une affaire de pouvoir. Tu ne peux pas vaincre un homme qui est plus fort que toi. Parce que le pouvoir n'a pas de couleur.
Amen.
Écoutez-le pas bien. Le pouvoir n'a pas de couleur. C'est Satan et devenu Satan. Mais le pouvoir qu'il utilise là, c'est un pouvoir. Ouais. Ne croyez pas que. On dit le pouvoir de Satan. Satan n'a pas de pouvoir. Il y a un seul pouvoir. Il y a un seul être qui est détenteur de tout pouvoir. C'est Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quelqu'un a volé une partie de ce pouvoir. Donc le pouvoir, c'est le pouvoir. Maintenant, ça dépend dans quelle main le pouvoir se trouve. C'est quand même plutôt simple. Dans la main d'un enfant, ce n'est pas une bonne chose. Dans la main d'un boucher, c'est exceptionnel. Alléluia. Donc, c'est une affaire de pouvoir. Tu ne peux pas faire un homme qui a un pouvoir que toi. Maintenant, eux, le diable père, par les sacrifices qu'ils font, leur donne un pouvoir. Et il se tient devant toi avec un pouvoir qui a un niveau comme ça. Quand tu viens avec un pouvoir qui a un niveau comme ça. Qu'importe dans les mains de qui le pouvoir se trouve. Ton pouvoir est inférieur à son pouvoir.
Amen.
Ce n'est pas parce que tu confesses Jésus qu'automatiquement ton pouvoir devient grand. Non. Ton pouvoir devient grand en accord avec ta capacité de saisir et de comprendre les réalités spirituelles, de croire et de les voir se manifester dans ta vie.
Amen.
Quand on dit ça avec la mesure que tu mesures, qu'on te va pas te mesurer. Ça veut dire quoi? La foi, c'est la main invisible. Que tu tends vers Dieu pour saisir la mesure qu'il te faut pour ta vie. Maintenant, si cette mesure-là, ta main peut prendre un peu, c'est ce que tu auras. Elle peut prendre beaucoup, c'est ce que tu auras. Donc chacun, en fonction de la foi qu'il a dans son cœur, crée de l'esprit.
l'espace à Dieu pour que Dieu travaille. Ne croyez pas que parce que tu as le nom de Jésus dans ta bouche, tu es la même chose comme tout le monde, c'est faux. Sinon, il y a des démons, on a besoin d'aller chercher le pasteur pour venir. Pourquoi? Le démon a frappé certaines personnes dans la vie. Je dis, Jésus, je connais Paul, toi tu es qui? Jésus, la paix est tombée sur lui. Comment tu fais pour chasser les démons? Il y a un prix.
Frère, vous pouvez avoir toutes les victoires que vous voulez.
Le Seigneur vous dit ce matin que la victoire ouverte par le surnaturel. Est-ce qu'on peut dire vaincre par le surnaturel? Quelqu'un t'énerve au bureau, il ne faut pas faire parler avec lui, chercher à faire des coups pour le renverser. Non, quelqu'un commence à parler contre toi, à vouloir prendre ta place, il faut monter dans les lieux secrets. Va dans les lieux secrets. Tout le monde dit va dans les lieux secrets. Frère, tu entres là-bas, tu le laves très bien. C'est pas tout, on dit, il y a des prières. Tu fais ça sur un homme, il ne s'en sort pas. Tu le perturbes. Vous savez ça? Les chrétiens sont gentils. Allez dans les pays comme le Nigeria où il y a la charia, des choses difficiles. Les chrétiens sont arrivés à un niveau où c'est soit tu arrêtes Satan, soit Satan t'arrête. Tu as le choix. Il n'y a pas de négociation. Satan n'entend pas de négociation. Satan, il entend, tu quittes ou tu restes. On ne négocie pas avec le diable.
Amen.
Quitte mon chemin. Point. Pas de négociation. Tu vas chez toi. Les enfants se comportent mal. Arrête de pleurer. Monte. Prends chaque enfant son nom. Devant Dieu. Faut le nettoyer. Et puis tu le reprogrammes. À moins que tu ne crois pas Dieu. Et je vous dis, ceux qui ne feront pas ça, c'est ceux qui pensent qu'ils croient en réalité qu'ils ne croient pas. Parce que quand on croit l'invisible, quand on croit que l'invisible contrôle le naturel, alors il n'y a rien qu'on fait désormais sans faire appel à l'invisible.
Amen.
Et je te dis, moi j'ai vu Dieu faire des choses exceptionnelles quand on a réglé le problème d'abord, avant de descendre. Par exemple, demain lundi, ou je sais pas, quand tu vas au travail, s'il y a des choses importantes à faire, règle le problème ce soir à la maison, règle le problème réellement. Et puis sors, tu vas voir ce qui va se passer. Si les gens qui te doivent là, s'ils n'ont pas frappé à ta porte, j'ai dit, quelque chose va les poursuivre, ils ne sauront pas qu'est-ce qui les poursuit. Il dit, depuis ce matin, je me suis levé, mais je ne sais pas. Je conduis ma voiture, je vais aller là, je rentre là. C'est-à-dire, en fait, il va chez toi. Il est programmé pour aller te donner ton argent. Pas subir la vie, rester la vie présumée. Faire présumer n'est pas la foi. Dire espérer n'est pas la foi. Je vous dis, la foi est un acte. Si tu crois que tu as fait, agis.
Je veux que tu crois.
Amen.
Vaincre par l'invisible. Frère, pas tous nos dossiers sont bloqués. On va développer ça cette semaine.
Amen.
Je vous ai expliqué comment Dieu a débloqué une situation. Je vous ai dit, vous avez la prière. Vous avez également vos ressources que Dieu met en vos mains. Un jour, j'ai fait une semence. Je vous ai expliqué ce qui se passe ici ou à quelqu'un. Je ne savais même pas. Le dossier est bloqué depuis combien, depuis 5 ans. Je ne sais pas. Quelque chose m'a dit va. 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 J'ai hésité. Parce que vous savez, quand il y a des conférences, comme les pasteurs, et puis les gens voient que les pasteurs, ils aiment jouer des bluffeurs. Et ils ont dit aux gens, venez donner, mais eux-mêmes, ce n'est jamais. Dieu m'a dit lève-toi. Je suis levé, je suis allé devant. On était deux ou trois d'abord. Après, les gens sont venus. Ça a donné près de $500. J'ai dit, ok. J'ai pris les $500. C'était pour faire quelque chose. J'étais en voyage. Donc, j'étais arrivé tout bas. Donc, il fallait quelque chose. Mais il fallait que je donne parce que j'ai dit, quand j'ai donné, avant minuit, mon portable sonne. Le gars m'appelle, il ne sait pas que je suis en voyage. Là, c'est pour vous dire que le dossier, on a bloqué tous les autres dossiers. C'était très difficile. Mais pour vous, pour vous, c'est débloqué. J'ai dit, hey, mon frère, appelle le numéro de Chinois en Côte d'Ivoire. Dieu est fort.
Amen.
J'ai dit, Dieu est fort.
Amen.
Ne crois pas que les victoires que tu as là, c'est à cause de tes beaux yeux. Parce que tu es bien, parce que tu es intelligent, parce que tu es bon manager. Tu n'es rien bon manager, frère. C'est la grâce de Dieu. Tu as posé ta
accepter la revient dans ta faveur. Si tu es délivré, c'est parce que tu as eu des batailles dans le monde, tu as eu des victoires dans le monde spirituel. Tu ne sais même pas. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta limite. Mais frère, on n'est pas venu à prier pour combattre les gens. Je ne sais pas si tu m'entends. On n'est pas venu à combattre les gens.
Amen.
Je veux voir des milliardaires. Frère, tu sais, on est arrivé à un temps de l'histoire de l'église où les bonnes paroles là, c'est bon, hein. Mais les gens vont voir ta vie. Et puis quand ils voient la vie, là, ils vont te suivre. L'église doit arrêter de parler et puis passer aux actes. Mais pour que les actes suivent, il faut que Dieu vous bénisse. Vos rêves s'accomplissent, vos idées se réalisent. Le temps est venu de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Pour être meilleur, dis amen. Le meilleur à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les gens de ta maison là, ils vont croire en toi. Quand ils vont croire que ça va chez toi. Ce n'est pas Bill qui attend tout le matin là qui va être convaincu de te suivre. Donc attend Bill tout le matin, mais c'est eux qui te l'ont transformé par le travail. Donc pour le moment là, tu ne les intéresses même pas. Parce que si c'est pas là où tu vas là, pour être comme toi, ils n'ont pas envie. Mais quand ils vont voir que tu attends ta Bill et tu gardes Lexus et tu vas donner l'argent. Quand ils sont face à vous, ils règlent le problème. Dans le monde spirituel, la parole est meilleure. Ne négligez pas
ce soir. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous avez écouté ce message. J'espère que vous avez été bénis. Vous pouvez nous contacter aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Merci pour votre fidélité. Et je crois que désormais, vous allez vaincre par le surnaturel et que rien ne vous surprendra. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce et à très très bientôt. Merci.